Franceville.ch.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Ouais, bah pourquoi pas, il faut se protéger, non?
Alors c'est tout à fait opposé, c'est stupide. C'est des avions qui sont sous contrôle américain.
Quelque part, c'est probablement justifié. Enfin, c'est cohérent.
Donc, s'il y a eu quelque chose de dépense inutile, c'est bel et bien le F-35.
C'est l'Amérique en plus, c'est pas le bon moment.
Embarquement immédiat pour ce vous d'abord, dont l'atterrissage est prévu pour 13h.
Absolument, et nous allons donc vous proposer de vous exprimer, donner votre sentiment et votre avis sur le F-35. Qu'en pensez-vous, pour, contre, ou tout simplement sans avis? Vous pouvez aussi l'exprimer au 079 844 0077. Alors, la première tendance est contre le F-35 ou son achat par la Suisse, 70-30. Ça s'exprime du côté des contres assez clairement. Ça coûte cher, c'est inutile, je cite. Il y a ce lien avec l'Amérique qui gêne beaucoup de gens. Et puis aujourd'hui, on n'a plus vraiment besoin d'avions militaires, on a les drones et le bruit. Et puis ceux qui sont un peu plus modérés disent qu'il faudrait plutôt acheter un avion en Europe ou garder les anciens. Et il y en a qui sont pour. Je parlais de 30%, vous entendrez des messages qui vont dans ce sens. Il faut se défendre et faire confiance aux spécialistes de l'armée. Et en général, on nous dit on a voté, point barre. Voilà. N'hésitez pas à vous exprimer sur ce sujet. Nous aurons un invité exceptionnel aujourd'hui qui parlera d'avions, d'aéronautique et de tout cela. Mais surprise pour dans un petit moment.
La tête dans les étoiles, et ça nous plaît.
Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Augier.
Les F-35, oui ou non, c'est le thème de vous d'abord aujourd'hui. On en parle tout d'abord avec vous, Sophie Vassutina.
Et voilà, deux syllabes qui font beaucoup de bruit et pas seulement dans le ciel. Allez, on décolle et il faut suivre puisque la polémique autour des F-35 remonte à juin dernier. On apprend que les 36 avions de combat américains devraient coûter bien plus que les 6 milliards initialement prévus, plus 1,35 milliard de francs dans le panier. Un achat qui représente déjà l'un des plus gros contrat d'armement de l'histoire suisse.
Pourtant, le Conseil fédéral maintient son projet d'acquisition.
Oui, malgré un sérieux problème, les États-Unis qui refusent de garantir un prix fixe, une situation un peu délicate quand on signe un contrat à plusieurs milliards. Le ministre de la Défense, Martin Pfister, défend pourtant le dossier. Selon lui, le contrat prévoit bien un prix fixe, sauf que l'autre partie ne l'entend pas vraiment de cette manière, et surtout que l'autre partie, eh bien, c'est Washington.
Reste que la facture passe mal.
Oui, l'alliance Stop F-35 a remis une pétition muni de 42 500 signatures pour demander l'arrêt immédiat de l'achat. Et la saga continue. En mars, le Conseil fédéral indiquait que la Suisse pourrait finalement acheter une trentaine d'appareils au lieu des 36 prévus. En cause, les coûts supplémentaires demandés par les États-Unis. Et oui, encore.
Et pour financer la défense, il faudra peut-être aussi passer à la caisse.
Le Conseil fédéral propose d'augmenter la TVA de 0,8 points entre 2028 et 2038. L'objectif ici, récolter 31 milliards de francs pour renforcer la défense suisse. Le peuple devrait se prononcer en 2027.
Et les F-35 feront aussi davantage de bruit.
Au sens propre, cette fois, les futurs avions émettront en moyenne 3 décibels de plus que les FA-18 actuels. Les riverains des aérodromes de Payerne, Emmen et Meringen sont concernés. L'armée prévoit donc d'équiper environ 230 bâtiments de fenêtres anti-bruit pour un coût estimé à 30 millions de francs. Et oui, ça fait beaucoup de chiffres. Et pendant ce temps-là, la Suisse hésite toujours sur les F-35. Le Conseil fédéral elle envisage aussi de tourner le dos aux Américains pour le système de défense patriote dont les coûts explosent eux aussi. Berlin, Paris, Israël ou encore la Corée du Sud sont désormais dans la course. Alors entre retard, surcoût et incertitude, ces avions sont-ils vraiment essentiels pour la défense suisse? Et si oui, à quel prix? À vous d'abord d'en parler.
Merci Sophie Vassutine, ça a déjà beaucoup fait réagir notre invité,
pas Jean-Marc? Je l'ai vu.
Un vrai langage corporel.
Absolument. Notre invité qu'on vous présente dans quelques instants, juste avant, la parole est à vous. Dans la rue, à Lausanne, vous comprendrez que ça a été fait hier parce qu'il y a des petites musiques. Parfois, c'est de la flûte de pan, parfois, c'est du rock. Enfin, voilà. Lausanne est
mercredi,
très animée.
Mercredi, c'est musical à Lausanne.
Oui, c'est ça, c'est passé marché.
Difficile d'acheter des avions de chasse. Je ne suis pas convaincu par ces F-35. Non, je ne suis pas convaincu par le fait qu'on achète des armes aux Américains actuellement.
Tous les pays en achètent, des avions militaires. Donc, si vous n'avez pas d'avion, vous risquez de vous faire attaquer, c'est tout. Il y a des gens qui auraient préféré des rafales, non? Mais à ce moment-là, s'ils n'aiment pas tellement les Français, c'est des trucs français aussi.
Ouais, parce qu'on n'a pas besoin de ces avions. On est un si petit pays et puis c'est l'Amérique en plus. C'est pas le bon moment.
Je ne sais pas si ça va être vraiment utile. Mais en tout cas, il sera cher. D'après ce que j'ai vu,
plus. Il y aura peut-être d'autres priorités avant, maintenant. Bon, pas nous qu'on décide. Hein.
Claude Nicollier, bonjour.
Bonjour Jean-Marc.
On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui, très heureux que vous ayez accepté de nous accompagner, pas pour parler du F-35, peut-être à la fin on vous donnera la parole sur ce sujet, puisque vous avez déjà corporellement, comme le disait Valérie, beaucoup réagi.
Ça vous a fait sourire en tout cas.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et vous c'est verrez, vous allez encore sourire, parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont arrivés. Alors, on peut parler de vous, Claude Nicollier, comme astrophysicien, homme d'aéronautique évidemment, astronaute. On pourrait aussi parler de vous comme un homme de transmission. Mais on ne va pas oublier aujourd'hui que vous avez été pilote militaire, que vous avez été pilote aussi dans le civil, et puis que vous avez fait des sorties dans l'espace. Vous détenez en la matière un record du nombre de vols, on l'évoquera tout à l'heure, et aujourd'hui vous êtes dans la transmission. On commence peut-être par cette passion qui était la vôtre. Elle est née comment pour
l'air ? Bon, c'est difficile de dire comment naît une passion. Des jeunes se passionnent, je ne sais pas, pour les papillons, pour les voitures de course, pour devenir pompier. Donc la passion, elle est à l'intérieur de nous et puis elle s'exprime. Soit on suit une voie qui correspond à cette passion qui vient en fait de nous-mêmes, de son intérieur. Ou alors on fait autre chose. Mais pour moi, j'avais toujours cette passion pour le ciel. Et puis j'avais toutes sortes de questions sur la nature, sur le bleu du ciel, pourquoi le soleil brille, pourquoi il brille depuis si longtemps, il a encore quelques milliards d'années de vie. Je me posais toutes ces questions. Déjà, en tant que gamin, quand j'avais avant 10 ans, j'avais déjà ces questions. C'était une de mes passions, puis l'autre, c'était pour les machines volantes, pour les avions.
Oui, parce que de mémoire, dans Double Face que vous avez, on a fait un Double Face ensemble pour LFM, vous disiez que vos parents étaient plus fiers du fait que vous soyez pilote d'avion militaire que astronaute.
Oui, bon, évidemment, je suis devenu pilote militaire bien avant de devenir astronaute. Et puis, dans une certaine mesure, il y a une comparaison entre le style d'activité et puis le niveau de risque d'un pilote militaire et d'un astronaute. Un pilote militaire, j'étais dans une escadrille de Hunter, l'escadrille 5, escadrille de milice, donc pas des professionnels, mais c'était une activité à temps partiel. Et on se réunissait tous les deux mois pour une semaine à Meiringen, à Interlaken, à Ambri-Piotta, à Emmen, pour voler pendant une semaine de façon très intense. Et c'était des exercices qui étaient difficiles. L'avion était relativement facile à voler le Hunter, mais les exercices étaient difficiles, il n'y avait pas de GPS. On devait aller trouver des buts qui étaient des toiles jaunes dans un champ près de Herzogenbursee ou bien Frauenfeld.
Rien que ça, déjà, ça vous perd.
Il fallait tout préparer sur la carte avant le départ parce qu'il n'y avait pas de GPS. Donc pour moi, j'ai appris la responsabilité de la préparation de toute activité humaine qui est difficile et risquée. Donc une belle leçon de vie pour moi.
Et on reviendra sur cette notion de responsabilité, évidemment, parce que c'est quelque chose qui est très important pour vous. On va se retrouver aussi avec vous, qui nous donnez votre avis sur le F-35 au 079 844 00 77.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
F-35, oui ou non ? Question claire pour vous d'abord, jusqu'à 13h, avec notre invité, dont le titre, le métier, tient en deux mots, astronaute suisse. Claude Nicollier est avec nous jusqu'à 13h.
Et on va parler de plein de choses avec Claude Nicollier, mais je fais un petit résumé de ce qu'on a reçu comme message à l'instant sur le F-35. Et on en écoutera un ou deux messages vocaux. Alors, pour Anna, on pourrait en acheter moins et les fabriquer chez nous. Pour Alex, qui est totalement contre, il faudrait passer à autre chose. Pour Catherine et Fernando, il aurait fallu acheter des avions en Europe. Et puis pour Corinne, elle fait une comparaison entre l'assurance ménage et l'aviation. Elle dit, quand on prend une assurance ménage, on ne sait pas ce qui va arriver, et du coup, c'est bien d'avoir des F-35 parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, donc elle est plutôt positive. Écoutez ce qu'en dit Yves.
Je pense que c'est une sage décision, vu ce qui se passe à l'extérieur. Le seul hic, c'est la quantité qui n'est pas suffisante. Ils ont descendu de 35 à 30 appareils, alors que je pense que pour couvrir les besoins à l'heure actuelle, ça aurait été une septantaine d'appareils, donc deux fois plus.
Claude Nicollier avec le pouce levé si vous n'avez pas caractère 3.
Allez, qu'en pensent celles et ceux qu'on a rencontrés dans la rue ?
J'en pense beaucoup de mal. D'abord, c'est cher. C'est destiné à défendre un territoire qui, de toute façon, en cas d'un conflit majeur, serait rapidement envahi ou en tout cas soumis à d'autres. Donc s'il y a quelque chose de dépense inutile, c'est bel et bien le F-35. Ça fait du bruit, ça pollue, voilà.
Avec ce qui se passe actuellement, autant rester avec ce qu'on a actuellement.
Je me pose vraiment la question. Je ne suis plus tellement sûr. Ça coûte trop cher. De toute façon, si on a quelques avions, ça va durer une, deux heures et ils sont descendus, non ?
En fait, il vous a suivi, le joueur de flûte de pan, Jean-Marc, tout au long du...
Mais non,
et en
mais...
même temps, ça détend.
Oui, c'est ça.
Quel alors, que soit le sujet.
Le joueur de flûte de pan, c'est-à-dire que quand vous étiez à la place La Palue, on l'entendait. Quand vous étiez à la place Centrale, on l'entendait. Et quand vous étiez en haut, on l'entendait. Comme quoi, ça passe très
en
fort.
En fait, c'est
la
un orchestre.
Flûte. C'est un orchestre, absolument. Claude, on va écouter d'autres messages tout à l'heure, évidemment, sur le F-35. Puis, je vous donnerai la possibilité de donner votre avis à la fin, parce que je vois que vous réagissez beaucoup et il y a beaucoup de choses à dire. Comme pilote militaire, on se pose ces questions-là. On se dit, c'est le bon avion, c'est pas le bon avion ou pas du tout?
Oui, c'est évident qu'on se les pose, ces questions. Moi, j'ai suivi d'assez près tout le processus. Enfin, j'ai même eu le privilège de pouvoir recommander, donner des recommandations à Viola Amerd, qui était la chef du DDPS à l'époque. Donc oui, on s'en occupe de très près, je dirais. Et on suit l'évolution des décisions qui sont prises de très près également. Enfin, en résumé, moi, je pense que c'est le bon choix. Bon, on va revenir là-dessus peut-être
oui,
va, plus tard.
Avec oui. plaisir. On revient juste sur le fait qu'à un moment donné, pendant 3 ans, vous avez piloté des avions civils aussi, pas seulement militaires. Pourquoi cette envie de piloter C'était chez Swissair
Bon, ou... c'était cette fascination pour l'aviation. En parallèle avec mon intérêt pour l'astronomie, j'étais astrophysicien à l'Observatoire de Genève, mais j'habitais à Versoix. En fait, c'était pratiquement dans le outer marker de l'approche de la piste 23 de l'aéroport de Genève. Je voyais des avions, puis je me suis dit, moi, j'ai tellement envie de voler un avion civil. Je volais l'Inter, qui était un bel avion, et puis on faisait des exercices qui étaient extrêmement fascinants du point de vue du pilotage et du point de vue de l'engagement des armes également. C'était des tirs au canon, on tirait des roquettes, on larguait des bombes. Et pour moi, c'était quelque chose qui me fascinait, mais je voulais voler des avions plus avancés, plus modernes du point de vue de toute l'avionique, et puis tout le style de vol d'un avion de ligne, c'est quelque chose qui me fascinait, puis j'ai craqué à un moment donné. C'était une transition relativement rapide en tant que pilote militaire pour devenir copilote sur des C-9 à Swissair.
Mais
je suis resté relativement peu de temps, parce qu'après, il y a eu l'attraction de l'espace, il y a eu la possibilité de devenir astronaute, alors j'ai quitté Swissair.
Ça veut dire qu'il y a peut-être des auditeurs et des auditrices qui ont entendu dans un avion, ici, votre commandant de bord qui vous parle, Claude Nicollier.
Oui, en fait, j'ai jamais été commandant de bord, donc j'ai été copilote, parce que pendant plusieurs années, on est copilote. Mais pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup apporté, l'aviation de ligne, et puis la rigueur, la discipline, toutes les précautions qui sont prises pour assurer la sécurité et accomplir également la tâche d'amener les passagers, 200 ou 300, de A à B. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. J'étais par la suite à une école de pilote d'essai en Angleterre, et si je n'avais pas passé par la période Swissair, ça aurait été pratiquement impossible pour moi. En tant que pilote de milice sur Hunter, aller dans une école de pilote d'essai, le saut aurait été trop grand. Donc ça m'a beaucoup aidé, ce séjour à Swissair.
On sent encore les passions. Hein.
Oui, on la sent et on parlera. Et vous allez voir, on va parler d'espace tout à l'heure. On va écouter encore le message de Stéphane sur le F-35.
Le prix qui coûte, en plus, ça sera un avion qui fait beaucoup plus de bruit que les FA-18. Ces F-35, on n'en a pas besoin ici. Voilà, il y a les FA-18, il y a qu'à les retaper, et surtout les F-5, la patrouille suisse, qu'il faudrait vraiment retaper, sinon la patrouille suisse risque de disparaître. Mais je trouve que le FA-35, c'est abusé, il coûte trop cher.
Allez, 079-844-0077, vos avis nous intéressent évidemment.
Vous d'abord. La parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Augier.
Il fait partie du cercle très fermé des astronautes. Claude Nicollier est notre invité dans Vous d'abord. F-35, oui ou non, c'est le thème jusqu'à 13h.
Et les avis sont toujours bienvenus et partagés, en tout cas, dans les messages que nous avons reçus.
Pour moi, c'est un choix pragmatique. Le cahier des charges de la Suisse, c'est de 2030 à 2060. C'est le seul appareil en Europe capable de répondre à ce cahier des charges. Il y a toujours eu des débats sur les coûts d'acquisition militaire. C'est clair que c'est un coût plus élevé que les avions de génération plus ancienne, qui est un type d'avion qui peut faire beaucoup plus de choses. Le fait de se mettre à jour au niveau de la technique et de la technologie.
Alors c'est l'avis de quelqu'un qui est plutôt favorable, et puis là on va écouter celui de Claude André.
Ben, tout simplement, moi je pense qu'au rythme de l'évolution des guerres, il est certain que bon, l'acquisition des F-35 est un énorme décalage technique devenu désuet. Le monde nous dévoile des stratégies des drones et leur énorme efficacité, qu'il faudrait par exemple doubler dans nos vallées de batteries solaires, ce serait suffisant. D'autre part, un avion européen moins ambitieux aurait été stratégiquement, financièrement plus efficace. Et puis d'autre part, j'ai une certitude. Comment, pourquoi voudrait-on nous envahir? Parce que je pars du principe, ils sont déjà tous chez nous bien protégés, et c'est dans les secrets du département militaire qu'ils savent déjà.
Claude, une question peut-être, sans parler nécessairement du F-35, mais beaucoup de messages disent, mais est-ce qu'on a encore besoin d'un avion ou d'avion militaire alors qu'on a les drones? On voit que la guerre, elle se mène malheureusement avec les drones du côté de l'Ukraine et de la Russie. Là, vous avez un avis par rapport à ça comme ancien pilote militaire?
Oui, il est évident qu'on doit pousser également l'acquisition et l'exploitation de drones. C'était tout à fait évident, ça fait partie de n'importe quel théâtre de guerre dans le monde actuel. Mais en fait, il y a une qualité du F-35, c'est que s'il vole en altitude, il a de telles capacités de détection que si on a un ensemble de drones qui sont relativement proches du sol pour atteindre des objectifs terrestres, eh bien le F-35 ou la flotte de F-35, on peut en avoir plusieurs, sont capables de faire la détection et puis la communication vers le sol de la situation dronique, si on peut dire, et des missiles de croisière de façon très précise. Et ça, c'est une extraordinaire capacité du F-35 que n'ont pas ses concurrents.
On va écouter ce qu'en pense la rue, avec ou sans la flûte de Pan.
À la limite, ça pourrait être utile. Le problème, c'est qu'avec le département de la Défense, tout est épouvantablement mal géré. Épouvantablement. Voilà. Et il n'y a pas que le F-35, il y a les systèmes Patriotes, tout ça. Franchement, c'est des amateurs. Je pense qu'à partir du moment où on a une armée, il faut qu'elle soit équipée, sinon on renonce à une armée, parce que ça ne vaut pas la peine. Donc oui, quelque part, c'est probablement justifié. Enfin, c'est cohérent.
Je suis totalement contre. Je ne vois pas du tout à quoi il va nous servir. Si c'est pour travailler sur les ordres de bureau, le temps qu'il décolle, les avions ont déjà traversé la Suisse. Je ne vois pas à quoi ça sert, c'est de l'argent fibre. Fichu par les fenêtres.
Alors maintenant, on va faire un petit tour dans l'espace grâce à vous. Parce que tout le monde ici, y compris Sarah qui a 20 ans, est fascinée par l'espace. Et donc, on a besoin que vous nous racontiez un peu comment c'est dans l'espace. Et surtout, parce que vous avez un record du nombre de vols, il s'est passé plein de choses. Il y a eu cette réparation incroyable que vous avez réussie, qui n'était pas gagnée d'avance de Hubble. Comment on se sent quand on est dans l'espace?
Bon, pour moi, évidemment, c'était une expérience absolument époustouflante et tout à fait extraordinaire. Et c'est, comme je l'ai mentionné avant, c'était du travail de préparation parce qu'on a la responsabilité de faire le travail convenablement, mais c'était en même temps, physiquement et psychiquement, une expérience absolument fabuleuse. Alors, on se prépare pour chaque mission, j'en ai fait 4 comme mentionné, le Mission Specific Training, l'entraînement spécifique pour la mission avec les 7 membres d'équipage de chaque vol navette, c'était de l'ordre de grandeur d'une année. C'était un entraînement vraiment intense pendant une année sur la mission qu'on va effectuer. Par exemple, la mission de Hubble, la première visite de Hubble en décembre 1993. On a commencé l'entraînement en automne 1992, peu après mon premier vol qui était en été 1992. Et c'est vraiment un entraînement extrêmement intense parce qu'il faut, au moment du départ, lift-off, l'allumage des 3 moteurs à hydrogène et 6 secondes plus tard, l'allumage des fusées à combustible solide pour la montée en orbite qui durait seulement 6 minutes et demie. Donc l'espace est tout prêt, on y arrive en relativement peu de temps. Et ensuite, on avait 2 jours ou 48 heures pour aller rendez-vous avec Hubble, capture avec le bras robotique, installation dans la soute, ensuite 5 sorties extravéhiculaires pour effectuer d'une part la correction d'optique, qui était l'élément principal pour cette première visite de Hubble, changer les panneaux solaires, changer les gyroscopes, travailler également sur les capteurs stellaires. Donc il y avait tout un programme d'activités et ça, il faut le préparer.
C'est extraordinaire.
Mais c'est une expérience absolument époustouflante.
Mais pour nous aussi, hein, vous venez de dire, grâce à Claude Nicollier, invité de Vous d'abord, l'espace est tout prêt. Voilà, Valérie. Et on peut continuer à donner son avis sur le F-35 qui va parfois dans l'espace, pas aussi haut quand même. Hein.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Elle est en orbite aujourd'hui avec notre invité Claude Nicollier pour parler des F-35. Oui ou non? C'est la question pour vous d'abord.
Absolument, et tout à l'heure on évoquera avec Claude Nicollier la transmission, parce que là on a eu de la chance pour avoir Claude Nicollier. Hier il donnait une conférence en Suisse alémanique, demain une au Portugal, enfin il fait le tour du monde pour donner des conférences, et aujourd'hui il était disponible pour vous d'abord, ça tombe bien. Alors on revient au message sur le F-35 avec celui d'Alain.
Pour moi c'est un avion extraordinaire, je dois le dire franchement, c'est un avion qui a été choisi par nos forces de l'armée, et c'est le seul avion disponible qui est de cinquième génération, qui est en constante évolution, c'est clair, c'est pas évident, c'est des avions de très haute technologie. Ce qui me choque principalement dans ces déclarations qu'on a surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que tout le monde devient un expert, et ça c'est un tout petit peu gênant, je trouve, voilà.
Et ça aussi, ça fait sourire Claude Nicollier.
C'est vrai. En fait, c'est un peu comme le foot, quoi. On est tous entraîneurs de l'équipe qu'on aime ou de l'équipe qu'on n'aime pas. C'est un peu ça. C'est très intéressant parce qu'on pourrait s'imaginer que non. On entendait Claude André tout à l'heure, par exemple. Il est caricaturiste, lui. Il n'est pas du tout dans le... Et puis, il avait une vision. Et tous les gens qui ont envoyé des messages avaient des visions incroyables. On va écouter celle de Sylvie, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de femmes pour l'instant qui s'expriment sur le F-35. Mais quand
alors,
même, Sylvie.
Moi, je trouve que les 35 milliards qu'on a mis pour les avions... On aurait mieux fait de les mettre dans le social, parce que moi, ce que j'arrive pas à accepter, c'est que les 17 francs qu'on demandait d'augmentation pour les rentes ABS, hein, ça a été refusé. Et puis les 35 milliards, alors ça a été, pour un avion, ça a été accepté. Et puis pourquoi acheter américain quand on pourrait très bien acheter européen pour valoriser les emplois de chez nous?
On a reçu un message hyper touchant de Michel sur le WhatsApp qui dit « Tout près de l'aérodrome de Payerne, depuis ma plus tendre enfance, je suis tombé dans la passion pour les avions. Il vous salue, Claude Nicollier. Il écoute cette émission régulièrement. Et alors, il fait toute une réflexion. Il dit que ce soit le F-35, le Rafale, le Typhoon ou autre, peu importe, de toute façon, c'est cher. Dans tous les cas, laissons les personnes habilitées à choisir selon les besoins de l'armée. » Et puis, il y a un autre message de Catherine.
Ce pouce levé, c'est aussi s'il l'engage dans la cabine. C'est ça. Absolument. Parce que vous le faites beaucoup, ouais.
Pour les plongeurs, c'est comme ça, le pouce levé.
Voilà, donc regardez Carac 3, il y a quand même pas mal de pouces levés de la part de Claude Nicollier.
Et puis Catherine qui est inquiète pour les décibels augmentés de 3, dit-elle, ce qui est énorme au niveau du bruit. Habitante de la Broye, nous sommes déjà bien impactés à ce jour. On voit qu'on peut être habitante et habitant de la Broye, avoir des visions différentes en la matière. Là, on a entendu le message de Sylvie, on retourne juste dans la rue quelques instants.
C'est beaucoup d'argent pour finalement pas grand-chose.
Si on en a besoin, ben voilà. Mais s'il ne fonctionne pas, ça ne sert à rien. Hein.
Alors je suis tout à fait opposé, c'est stupide. C'est des avions qui sont sous contrôle américain, qui coûtent beaucoup plus cher que ce qui était prévu. Donc je trouve que c'est stupide d'avoir choisi ça.
Je ne sais pas s'ils sont suffisamment utiles et puis si on peut assez les utiliser.
Moi je suis contre, parce que c'est trop cher, il ne faut pas acheter aux Américains.
Ah non, Rafale, je suis pour. Hein.
On a mieux à faire, on a des gens qui sont dans la rue, on a des personnes précarisées. Et puis les avions, c'est une idée stupide.
Il y a Philippe, pilote FAB et 25 ans en industrie aux États-Unis, qui dit qu'il est contre, lui, cet avion ne sera jamais un avion suisse car il est piloté par les USA. Alors là, il faut qu'on vous écoute un petit peu parce que les USA, vous connaissez bien aussi, effectivement. Mais ça, c'est quand même la principale remarque. Si je regarde tous les messages qu'on a reçus, Claude, c'est la principale remarque. On n'a pas envie de cet avion parce que c'est piloté par les États-Unis d'Amérique.
Oui, bon, c'est évidemment pas Donald Trump lui-même qui nous remet ses avions. Disons, c'est la firme Lockheed Martin, qui est une firme extraordinairement talentueuse ces dernières années, ces dernières décennies, a fabriqué des avions extraordinaires. Donc c'est un excellent avion, il n'y a pas de doute. Puis surtout, c'est l'avion qui a été choisi dans l'évaluation qui a été faite en 2019. On a évalué 4 avions. Et de très loin, le F-35 était en avant. Et c'était il y a 7 ans. Entre-temps, l'avion a été passablement amélioré. C'est une des raisons pour lesquelles le prix est finalement plus élevé que ce qu'on avait prévu au départ. Et puis, il faut bien... Bon, je ne sais pas si on va continuer maintenant sur le sujet du F-35.
Non, après, on va revenir à vous.
Oui. Voilà. Alors, je vous écoute.
Voilà. Puis tout à l'heure, je vous laisserai la conclusion. D'accord ?
D'accord.
Mais on va revenir à vous dans un petit moment, parce que j'aimerais vraiment qu'on parle de cette responsabilité. Ce mot responsabilité, c'est quelque chose d'essentiel pour vous. De la façon dont vous transmettez tout ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, c'est important pour tout plein de générations. Je vois Sarah qui est, je ne savais pas, passionnée de l'espace et qui vous regarde avec des grands yeux bien brillants. Donc, tout à l'heure, on va essayer de parler de tout ça juste après Sarah, bien sûr. 079 844 0075.
France.
Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Ogier.
Claude Nicollier, notre invité dans Vous d'abord pour évoquer les FA35.
Oui, et puis alors là c'est clair, c'est toujours 70% de non, 30% de oui. Je ne sais pas quel serait le résultat si on votait aujourd'hui. Claude va pouvoir donner son avis dans quelques instants, mais moi je voudrais que vous me parliez de responsabilité. C'est quelque chose que vous avez pris à bras le corps déjà il y a quelques années et que vous transmettez alors dans les conférences, dans plein de choses.
Oui, bon, déjà dans mon métier d'astronaute, finalement j'étais un peu un fonctionnaire qui faisait son travail, si on peut dire, dans le sens que le travail que je faisais, c'est un service civil, on peut dire. L'idée était de remettre en bon état de fonctionnement un télescope qui allait pouvoir livrer au public, mais également aux astrophysiciens de tous les pays qui contribuent à ce programme, c'est-à-dire les pays européens, c'est un programme ESA, NASA et puis les États-Unis. L'idée était vraiment, c'était notre responsabilité de faire en sorte que cet instrument qui avait coûté fort cher soit productif sur le plan de la recherche et de la découverte scientifique. Donc ça, c'était une responsabilité pour nous de le remettre en état pour qu'il puisse être productif de cette manière. Dans une certaine mesure, on peut dire que le travail d'un pilote militaire, c'était également une responsabilité. C'était difficile et dangereux, mais on avait cette responsabilité de le faire au mieux, à l'intérieur de certaines limites de sécurité, mais aussi d'efficacité. Donc j'ai toujours eu un parallèle certain entre mon activité de pilote militaire et d'astronaute, bien que, évidemment, pour le travail d'astronaute, il y avait toute l'ingénierie complexe de la navette, du télescope lui-même, et puis la science qu'il y avait derrière, ce qui n'est pas directement dans l'activité d'un pilote militaire.
Et alors aujourd'hui, transmettre, c'est une nouvelle passion pour vous aussi?
Oui, c'est finalement une nouvelle tranche d'âge. Pour moi, j'ai arrêté mon enseignement à l'EPFL que j'ai suivi pendant pratiquement 17 ans. Je l'ai arrêté en 2024. Alors maintenant, je donne des conférences, je donne quelques cours à Zurich, à l'ETAZ et également à l'EPFL. Et puis je vais beaucoup dans les écoles et je parle à différents groupes de personnes. Et pour moi, je le sens comme une responsabilité dans la traînée de mon activité d'astronaute. Je ne peux pas tout simplement rester dans mon coin puis boire des bières et fumer des cigares.
Vous seriez tenté de le faire, au cas où? Vraiment?
Pas véritablement.
Ah oui, c'est ça. Militaire un jour, militaire toujours, oui. C'est ça.
Claude, question que certaines et certains d'entre nous se posent peut-être, si on vous proposait d'aller sur Mars?
La Lune, oui. Mars, je serais assez hésitant. C'est un voyage de 9 mois, de 8 à 9 mois. Il faut rester relativement longtemps sur Mars avant que les conditions soient favorables pour le retour. Et je me rappelle qu'il y a à peu près 10 ou 20 ans, je disais oui, j'irai volontiers sur Mars. Maintenant, je serais un petit peu plus hésitant. La vie sur Mars sera extrêmement difficile. Cette idée d'une colonie humaine sur Mars, il faut la mettre de côté. Que quelques explorateurs y aillent, avec de grands risques, y compris le risque de perdre la vie, parce qu'être exposé à un flux de radiation cosmique tellement important, c'est pas bon pour la santé. Donc, moi, je n'irai pas. On ira sur Mars, à coup sûr, dans les années 30, peut-être les années 40. La vie sera difficile. Des colonies sur Mars, je n'y crois pas.
Et la dernière question, oui.
Et la dernière question, parce qu'il n'y a pas Matt Damon. Une avant-dernière question.
Une avant-dernière question.
Qu'est-ce qu'il y a de plus dans l'espace que sur Terre, Claude Nicollier?
Qu'est-ce qu'il y a de plus?
Oui, pour être aussi fascinant.
Bon, pour moi, ce qui était fabuleux, c'était d'une part la vue extraordinaire de la Terre. La Terre est une beauté absolument stupéfiante. Et puis c'est la prise de conscience. Prise de conscience de la beauté de la Terre, de sa petitesse, de sa fragilité. Donc c'est un immense bond dans le sens de la prise de conscience, aller dans l'espace. En plus, c'est d'un bonheur pas possible. Mais
j'imagine.
C'est du travail et la responsabilité.
Et alors, dernière...
Ça se mérite donc.
Oui, c'est ça, pardon. Non, ça se mérite, oui. Dernière question, le F-35.
Le F-35, encore une fois, il a été choisi. Je l'ai mentionné avant, en 2019, il y a eu cette évaluation. De façon absolument claire, le F-35 était devant. Il est évident que ce qui se passe aux États-Unis maintenant, à la Maison-Blanche, il y a un certain brouillard. D'une part, et puis des décisions sur la géopolitique qui ne sont pas tout à fait de notre goût. Mais disons, ce n'est pas ça qui doit nous freiner, finalement. Encore une fois, on achète l'avion à Lockheed Martin, qui est une firme de très haut niveau. Il y a toute une préparation qui a été mise en place en Suisse, y compris l'assemblage de 4 machines qui sera faite ici en Suisse. La plupart des avions seront construits en Italie, non pas aux États-Unis, mais en Italie. Donc on a beaucoup de pays européens qui font l'acquisition du F-35, y compris nos voisins du Sud et du Nord, l'Allemagne et l'Italie. Donc allons de l'avant, il n'y a pas de doute, c'est un avion pour des tâches de chasseur, d'intervention au sol, de reconnaissance, et puis surtout cette capacité de créer une image absolument détaillée de tout ce qui se passe dans le ciel, vu depuis en haut et transmission vers le sol. Donc c'est un système qui fera partie des commandes militaires absolument essentielles.
Merci d'avoir gardé ça pour la fin de l'émission. Mais ce n'est pas vous qui aurez le dernier mot, ce sera la rue tout à l'heure avec un dernier extrait de ce qu'on a pu entendre. En tout cas, merci beaucoup Claude Nicollier d'être venu. On a envie de vous applaudir à la fin de tout ça et on le fera.
Sarah le fait. Sarah vous le voyez fait. Certainement sur Carac 3.
Vous d'abord avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
F35, oui ou non, c'était le thème de vous d'abord, jusqu'à 13h.
Et justement, encore un petit aperçu de ce que l'on dit dans la rue à ce propos.
Alors, il ne faut pas, américain, il ne faut jamais acheter quoi que ce soit.
Ouais, bah pourquoi pas, il faut se protéger, non? Mais si on peut débourser l'argent ailleurs, ce ne serait pas plus mal.
Prendre des avions qui peuvent être désactivés à distance, voilà. Il faut juste qu'on ne soit pas en conflit avec les États-Unis, quoi.
Je trouve que c'est un avion qui est trop performant par rapport à la taille de notre pays. Le prix qui ne cesse d'augmenter, je pense qu'on devrait trouver une alternative.
Ces pauvres pilotes, il faut quand même qu'ils s'exercent, c'est vrai.
Je ne sais pas ce que c'est un F-35, c'est une sorte de poulet ou bien? Oui, les avions, c'est bien. Au bas, parce qu'on peut voler avec.
C'est pas un peu copinage sur les bords, cette affaire?
Voilà, un petit aperçu. Claude, minuit 30 cette nuit.
Oui, minuit 30, le départ du 12e vol de Starship, la méga fusée de SpaceX qui partira du Star Base au sud du Texas à minuit 30. Donc c'est 5h30 de l'après-midi au Texas. Le 12e vol d'essai, c'est quelque chose à suivre sur www.spacex.com ou www.nasa.gov, gov pour government. C'est absolument à suivre. Il ne faut pas aller vous coucher avant 1h du matin. Il faut assister à ce départ, minuit 30 cette nuit.
J'en connais une qui va être devant sa télévision.
Alors Sarah aussi, elle rêverait même d'avoir les commentaires de Claude Nicollier. On dirait qu'on pourrait faire ça avec vous, une chaîne YouTube, Claude.
Demain, best-of. Lundi aussi, puisque c'est Pentecôte. On vous souhaite donc un excellent week-end. Et mardi prochain, on va parler d'agriculture en se posant cette question. Quel soutien pour notre agriculture? Vous pouvez déjà donner votre avis au 079 844 0077. Bon week-end, Valérie.
Merci, bonne journée.